Audiolib présente L'anniversaire de Liane Moriarty. Traduit de l'anglais par Béatrice Topo. Lu par Ludivine de Worst. Ce livre est un ouvrage de fiction. Les noms, les personnages, les lieux et les événements relatés sont le fruit de l'imagination de l'auteur et sont utilisés à des fins de fiction. Toute ressemblance avec des faits avérés, des lieux existants ou des personnes réelles, vivantes ou décédées, serait purement fortuite. À mes parents, Diane et Bernie Moriarty, avec toute mon affection. Chapitre 1.
Tu crois vraiment qu'on peut y arriver sans se faire prendre ? Si j'en étais pas convaincue, tu te doutes bien que je te soumettrais pas l'idée. On pourrait finir en prison. Après les araignées à toile entonnoir et l'accouchement, rien ne me fait peur davantage. Personne n'ira en prison, imbécile. Un jour, toi et moi, on sera d'adorables petites vieilles, et je te parie qu'on aura oublié que ça ne s'est pas passé comme on leur a dit. J'ai du mal à nous imaginer en adorables petites vieilles. Là, t'as pas tort.
Chapitre 2.
Le mariage, c'est du boulot. Et c'est parfois même un peu barbant. Comme le ménage. Ça s'entretient, jour après jour. Il faut serrer les dents et faire en sorte que ça fonctionne. Évidemment, les hommes ne sont pas aussi acharnés que nous. Mais tu aimes les hommes, toi, n'est-ce pas ? Et ils ne sont pas très doués pour les tâches ménagères. Enfin, à mon époque, ce n'était pas le cas. Bien sûr, aujourd'hui, ils font la cuisine, passent l'aspirateur, changent les couches et tout, mais pour ce qui est de l'égalité salariale, vous êtes encore loin du compte, mes petites. Je ne vous vois pourtant pas vous démener.
D'accord, Tante Connie, mais tu sais, ce n'est pas le mariage en général qui m'intéresse. Ce dont je voudrais que tu me parles, c'est du mariage d'Alice et Jack. Comment décrirais-tu leur couple ? Ordinaire ? Extraordinaire ? Essaye de te rappeler. Même le plus petit détail me serait utile. Est-ce qu'ils s'aimaient, d'après toi ?
L'amour. Je vais te dire quelque chose d'important. Alors prends-en bonne note. Tu m'écoutes ?
Oui, je suis tout ouïe.
L'amour, c'est une décision.
Une décision ?
Tout à fait, une décision. Pas un sentiment. Vous, les jeunes, vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça que vous divorcez à tour de bras, sans vouloir te vexer, ma chérie. Maintenant, éteins ce magnétophone à la noix, je vais te préparer des toasts à la cannelle.
Je ne peux plus rien avaler, Tante Connie, je t'assure. Bon, mais tu m'aides pas du tout, là. Tu vois, le mystère du bébé Monroe, c'est comme un puzzle. Toi, tu en es une pièce. Et si j'arrivais à les rassembler toutes, je pourrais le reconstituer. Tu imagines ? Après tout ce temps, ça ne te ferait pas plaisir ? Ce serait fascinant, non ?
Oh, Véronica, ma chérie, pourquoi tu ne te contentes pas de trouver un travail ? Quelque chose de stable, dans une banque, peut-être.
Chapitre 3. De retour au bureau juste après les vacances de Pâques, Sophie Honeywell reçoit un coup de fil totalement inattendu de son ex-petit ami, Thomas Gordon, qui lui demande s'ils peuvent se retrouver pour boire un verre après le travail. Il doit lui parler, c'est assez sérieux, annonce-t-il. Rien de grave, j'espère ? S'exclame Sophie dont la fébrilité résonne à ses propres oreilles. Son cœur bat la chamade, comme après une grosse frayeur. Pour être honnête, ça lui a fait un choc d'entendre cette voix familière qui est désormais celle d'un étranger. C'est la première fois qu'ils se parlent depuis leur difficile rupture 3 ans plus tôt. Et d'ajouter d'un ton vif, « Personne n'est mort, dit. » Quelle question idiote. Elle ne dit jamais ce genre de choses. La nervosité, sans doute. Après un silence, Thomas répond,
« Eh bien, si. En fait, quelqu'un est mort. »
Sophie se frappe le front avec la paume de la main. S'ensuit un moment de flottement durant lequel elle se racle la gorge, puis, juste à temps, elle se souvient de la formule de politesse que l'on adresse aux gens en deuil.
« Oh, toutes mes condoléances, »
articule-t-elle d'une voix douce et triste.
« Merci. Bon, on peut se retrouver pour boire un verre ?»«
Oui, bien sûr, mais... qui est mort, alors ?»«
Je préfère en parler ce soir. »
Tout à coup, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais séparés. Pourquoi ne peut-il pas simplement dire les choses ? Sophie ouvre la bouche dans un cri silencieux rempli de frustration, pareil à ceux qu'elle a retenus de si nombreuses fois au téléphone du temps où elle était avec Thomas. « Mais je vais me ronger les sangs tout l'après-midi à ne pas savoir. Qui est mort ?